cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur vous convient. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Enseigne-nous ce matin, montre-nous le chemin, ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, et donne-nous de voir et de saisir ce que tu attends pour nous. Et tends ta main, Saint-Esprit, sois présent. Conduis-nous, conducteur, conduis-nous. Toi qui nous conduis dans toute la vérité. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, je me livre entre ta main. Nous nous livrons tous dans ce lieu entre ta main. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ouvre les yeux de nos cœurs. Donne-nous de te voir. Donne-nous de te saisir. Donne-nous de comprendre. Donne-nous, Seigneur Dieu. Donne-nous de te suivre, Jésus. Donne-nous la force, la sagesse de te suivre sur le chemin que tu ouvres pour nous. Merci Seigneur, car tu ouvres ce chemin au nom de Jésus. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur et nous rasseoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Salut un voisin, salut une voisine, bénis-la dans le nom de Jésus. Qu'elle soit la bienvenue à notre culte pour adorer notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Nous prenons du plaisir à être dans sa maison pour dire à notre Créateur combien de fois nous l'aimons. Amen. Nous ne venons pas simplement pour qu'il s'occupe de tous nos petits défauts, défis. Mais nous venons l'adorer. Nous venons le célébrer. Nous venons le dire qu'il est grand, qu'il est bon. Nous venons manifester notre amour. Alléluia. Nous avons appris souvent, n'est-ce pas, par nos enseignements, par les messages, que il faut développer un type de relation avec le Seigneur qui est différent d'une relation de profit. Il ne faut pas marcher avec le Seigneur parce qu'on veut ceci. Il ne faut pas marcher avec le Seigneur parce qu'on veut cela. Il faut marcher avec le Seigneur parce qu'on l'aime et parce qu'on développe son amour. Alléluia pour Dieu. C'est très important. Ça fait la différence. Il y a plusieurs manières de marcher avec Dieu. Mais il y a des personnes qui marchent avec Dieu, pas parce qu'elles aiment Dieu, mais parce qu'elles aiment les choses que Dieu possède et sa capacité. Ce ne sont pas des amis de Dieu. Et Dieu en est conscient parce que Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il sait quelles sont les pensées qui nous animent lorsque nous venons dans sa présence. Alléluia. Et comme je le dis souvent, vous donnerez toujours moins à un mendiant qu'à un ami. Un ami ne vous demande pas toujours. Un ami, il est simplement avec vous. Et si un jour vous apprenez qu'il a un problème, si c'est vraiment votre ami, vous pouvez casser votre compte en banque pour lui. Mais quelqu'un qui est toujours après vous, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi, donne. Vous lui donnez toujours le minimum. Vous voyez, quand vous rencontrez des mendiants, des gens qui viennent vous demander, vous n'allez pas aller casser votre compte pour ces personnes. Vous enlevez, vous cherchez une pièce de 100 francs. Donc, si vous voulez connaître le meilleur de Dieu, aimez Dieu simplement, sans recherche d'autre chose. Ne marchez pas avec lui parce qu'il paraît que Dieu donne le mariage. Ne marchez pas avec lui. Ne venez pas dans l'église pour chercher à vous marier. Ne venez pas à l'église pour chercher à avoir du travail. Ne rencontrez pas les pasteurs pour toutes ces genres de choses-là. Votre soif d'être celle-là, connaître Dieu. Amen. Mais Dieu qui vous a créé, c'est que vous avez besoin d'argent. Dieu qui vous a créé, c'est que vous avez besoin de travailler. Dieu qui vous a créé, c'est que vous avez besoin de ceci. Ça va venir naturellement. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas les exposer dans la prière. La Bible dit qu'il faut prier, il faut parler. Mais on ne peut pas marcher avec Dieu exclusivement pour cela. Et lorsqu'il ne nous donne pas ce à quoi nous nous attendons, alors on dit, bon, quand on arrive, je ne viens plus beaucoup à l'église. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Amen, amen. Dis avec moi, réussis mon mariage. Une priorité pour ma destinée. Amen. Voilà ce dont nous sommes en train de parler. Qu'est-ce que ce sujet est en train de dire? Que j'ai un destin. Et tout le monde a un destin. Tout le monde est né pour un but. Tu es né pour un but. Tu es né pour réaliser quelque chose dans ce monde. Tu n'es pas le produit du hasard. Même si c'est involontairement que tes parents t'ont eu, pour Dieu, c'était volontaire. C'était calculé. C'était voulu. Tu es la réponse de Dieu à un problème sur la terre. tu as un destin, tu as un but. Peu importe la façon dont les hommes te considèrent, l'entourage te considère, tu es quelqu'un de très important. Tu es très important parce que tu es rare, tu es unique. Il n'y a pas deux personnes comme toi parmi les 6 milliards d'habitants qui peuplent ce monde. Les gens peuvent te ressembler, mais ils ne sont pas toi. Tu es unique. Amen. J'insiste là-dessus parce que je reviendrai là-dessus dans mon message. Car c'est très important de connaître sa particularité en ce qui concerne le mariage. Amen. Amen. Et tu es né pour réaliser une chose importante. Et cette chose-là, tu ne la saisis pas réellement. Elle n'est pas claire dans ton esprit. Elle est posée en toi avant ta naissance. Avant que tu ne naisses, Dieu a déposé en toi ton vrai potentiel, ta vraie capacité et les choses que tu dois réaliser. Mais toi-même, tu les ignores. C'est l'expérience et certaines étapes dans ta vie qui vont te conduire à déployer cette chose-là. Tant que tu ne réalises pas le but pour lequel tu es né, tu ne seras pas épanoui. Le monde vous fait croire que c'est en possédant des biens qu'un homme atteint ses objectifs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être profondément malheureux. Le monde dit, les gens me font croire que si tu es marié, tu seras heureux. Ce n'est pas vrai. On peut se marier et être profondément malheureux. On peut avoir un homme qui est attentionné et se sentir toujours bizarre, malade. Tu as quelque chose à faire dans ce monde. Tu as un but, quelque chose à réaliser. Amen. Et tu vas te sentir vraiment épanoui. Tu seras en paix avec toi-même, avec les autres, avec ton Dieu. Tu auras cette paix-là. Si seulement si tu es en train de réaliser ce pourquoi tu es né. Maintenant, ce but-là, tu peux l'atteindre même sans le mariage. Mais ça sera beaucoup plus compliqué. La Bible dit dans un passage que de même que le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Dans les Ecclésiastes, il est dit, c'est le fer qui aiguise le fer. Vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Pour aiguiser un couteau ou une machette, il faut aussi du fer. Il faut un élément à peu près de la même matière. Donc, de même que le fer aiguise le fer, c'est l'homme qui aiguise l'homme, qui affine l'homme. La machette va me servir à couper dans mon champ, à enlever la broussaille. Mais si ma machette est émoussée, elle n'est pas limée, elle n'est pas tranchante, elle ne va pas atteindre le but pour lequel je l'ai achetée. Vous me suivez? Quand j'achète ma machette, c'est pour débroussailler mon champ. Ma machette ne va pas atteindre ce but-là si elle ne rencontre pas un autre fer. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Donc, le but d'un homme, de même que le fer aiguise le fer, le but d'un homme se réalise, ou bien l'homme s'affine dans l'atteinte de son objectif en rencontrant quelqu'un. Et c'est là qu'intervient le mariage. De même que le fer aiguise le fer, la personne qui est en train de t'aiguiser, c'est ton conjoint. Le mariage a beaucoup d'aspects de douleur. Mais la douleur du mariage ne vient que pour t'aiguiser. Parce que quand le fer aiguise le fer, ça ne fait pas plaisir à la machette. Elle sent qu'on est en train de lui arracher une partie de sa matière. Un autre fer vient gratter. Donc, si la machette pouvait parler, mais toi, tu me veux quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que tu sais de quelle usine je viens? Toi, un fer bizarre comme ça. Il peut te dire tout. Mais si tu ne rencontres pas la lime, tu ne seras pas prêt pour débroussailler. Alléluia. Alléluia. Le mariage est la rencontre de deux personnes dans un but positif. Le but d'atteindre une destination précise. Alléluia. Amen. La machette sans la lime peut couper, mais tu vas prendre beaucoup de temps. N'est-ce pas? Vraiment, si tu avais 2 hectares, 1 hectare à déblayer, franchement, tu ne vas même pas atteindre la moitié que tu vas baisser les bras. Donc, un homme qui ne rencontre pas l'homme ou la femme de sa vie aura beaucoup de difficultés à atteindre ce qu'il peut faire réellement. Peut-être qu'il va réaliser des choses. Bien sûr, la machette qui n'a pas été aiguisée peut couper 2 ou 3 feuilles, peut couper 2 ou 3 herbes, peut couper quelques-unes des herbes. Ce n'est pas parce que seul tu es arrivé à réaliser des exploits que tu as atteint l'exploit pour lequel Dieu t'appelle. Ce n'est pas parce que seul, sans mariage, tu as fait de grandes choses dans ta vie que tu as atteint le but de ta vie. Détrompe-toi. Dieu sait le potentiel qu'il t'a donné. Il sait à quelle vitesse tu es capable de partir. Si tu as une voiture, une Ferrari, qui est capable d'aller jusqu'à 300 km à l'heure, et tu es en train de dépasser une 2 chevaux, et puis tu cries à cause de ça qui est en train de rouler à 70 km à l'heure, et puis tu dis non, j'ai déployé ma puissance et mon énergie. Toi, tu as dans la voiture qui va à 300 km à l'heure, une voiture qui va à 100 maximum et qui est en train de rouler à 70, ce n'est pas parce que tu as fait mieux qu'elle que tu as utilisé le potentiel. Quelqu'un va venir regarder la voiture, ta Ferrari va dire, mais tu gaspilles cette voiture. Tu as dit comment? Tu as vu la voiture là, j'ai fait mieux qu'elle, je suis le meilleur. On dit non, tu sous-utilises la voiture. Cette voiture là, elle peut aller jusqu'à 300 km à l'heure. Ah bon? Écoutez-moi, donc votre valeur n'est pas une valeur comparative. Vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes en vous comparant aux autres. En disant, j'ai bâti une plus grosse entreprise que mon voisin, ça veut dire que je suis moi-même, je suis meilleur. Ce n'est pas vrai. Peut-être que tu peux faire 100 fois plus. Alléluia. Tu as besoin d'un autre point de référentiel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen, amen. Le mariage contribue énormément à vous rapprocher de votre véritable potentiel. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Réussir mon mariage, une priorité pour ma destinée. J'ai un destin, j'ai un but. Ma destinée, c'est quoi? C'est réaliser ce pourquoi je suis né. C'est ça ma destinée. Amen. Amen. Réussir mon mariage, c'est une priorité pour faciliter l'atteinte de ma destinée. Comment est-ce que je peux réussir mon mariage? C'est ça l'objet de notre enseignement. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On a dit beaucoup de choses depuis le début de ce programme. Le mariage est sacré. Il est un propulseur de votre destin. Deuxième chose que j'ai dite, la mauvaise gestion du mariage peut vous empêcher d'atteindre le but de votre vie. Alléluia. Et puis après, j'ai parlé de la notion de réussite. C'est quoi la réussite? Rappelez-vous, pour réussir en toute chose, il faut avoir une idée plus ou moins précise de ce que vous entendez par réussite. Et ne pas confondre la réussite et le succès. C'est deux choses différentes. Alléluia. Je l'ai pressé précédemment. Amen. Et les aspects ou bien les critères de réussite mariage sont donnés par Dieu lui-même, car Dieu est le créateur du mariage. Il y a trois critères de réussite que Dieu donne. Le premier de ces critères, c'est l'influence positive ou l'impact des fruits de votre union sur la société. Ça veut dire, il faut que votre couple soit une bénédiction pour la société. C'est le premier critère de réussite de mariage. Deuxième critère, c'est la complicité conjugale. Je reviens là-dessus parce que je vais rentrer maintenant dans la complicité conjugale aujourd'hui. Amen. Tout en parlant des saisons du mariage. Donc la complicité conjugale. Et troisième critère, l'unité. Ton mari et toi, vous êtes un. Alléluia. Alléluia. Voilà, si ces trois choses-là ne sont pas réunies, ne sont pas atteintes, vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi. Vous êtes peut-être sur le chemin de la réussite. Vous êtes peut-être même à l'opposé de la réussite. Mais vous n'avez pas encore réussi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Pour réussir, pour atteindre ces trois objectifs que nous avons définis précédemment, il vous faut un moteur. Entre votre conjoint et vous-même, il vous faut un moteur puissant. Parce que dans les moments favorables, vous allez danser, vous allez être heureux. Mais lorsque la lime va commencer à aiguiser la machette, fais attention, tu peux vouloir dire, je sors de cette maison. Pour rester et atteindre son potentiel et considérer les conflits, les mésententes comme des opportunités. C'est-à-dire les conflits, les mésententes arrivent dans le couple. Mais il y a plusieurs manières de les interpréter. D'autres les interprètent comme des fatalités. Certains les interprètent comme des fatalités. D'autres les interprètent comme des opportunités d'aller de l'avant. Quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Pour pouvoir avoir la bonne considération, pour pouvoir réussir le mariage, atteindre ces différents objectifs, il faut l'amour, l'amour divin. Donc pour réussir selon Dieu, il vous faut l'amour surnaturel, représenté par le deuxième vin du miracle de Cana. Pour jouir de cet amour, pour avoir l'amour de Dieu, il faut donner à Christ la première place, la place de Seigneur et de Maître. Et septième chose, il faut être disposé à changer de mentalité, et c'est ce dont nous parlerons aujourd'hui, et il faut être disposé aussi à racheter le temps. Donc changer de mentalité, racheter le temps. Le détail des choses que je viens de citer sont dans les coffrets précédents. Amen. Alors nous revenons à notre passage de Jean le chapitre 2. Jean chapitre 2. Et je vais particulièrement insister sur le verset 6 de Jean chapitre 2. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Si quelqu'un avec moi. Bon, je n'entends pas bien. André, on ne me suit pas trop. Ça va? Au verset 6, donc, il est dit en Jean chapitre 2, « Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Alléluia. Donc, j'ai dit tantôt que l'amour qui va nous aider à atteindre les trois critères de réussite que j'ai cités précédemment n'est pas l'amour naturel. L'amour naturel, c'est l'amour que tu as ressenti la première fois que tu es tombé amoureuse ou tu es tombé amoureux. C'est naturel. L'amour naturel, je le dis, je suis presque convaincu, c'est l'amour qui a certainement conduit ton mariage jusqu'à présent. Ça, c'est l'amour naturel. L'amour naturel, symbolisé dans l'histoire de Canaan, dans le miracle de Canaan, par le vin qui avait pour origine le raisin. Parce qu'il y a eu deux vins dans cette histoire. Le vin qui est venu par manquer et le vin que Jésus-Christ a créé à partir de l'eau. J'ai dit, Jésus n'a pas créé son vin. Le vin, je rappelle, pour ceux qui nous prennent en marche, le vin, c'est l'amour. Alléluia. Cantique des Cantiques dit que le vin, c'est l'amour. Donc, quand Jésus crée, amène l'eau à devenir du vin, c'est tout simplement que dans un foyer, dans des noces, donc, Dieu, Jésus-Christ amène le vrai amour. Et c'est ce vrai amour-là qui aide à atteindre son destin avec son conjoint. Alléluia. Mais avant ça, il y avait un premier vin, c'est-à-dire un premier amour, un premier sentiment que tu avais pour ton conjoint. Ce sentiment-là finit toujours par s'estomper, par manquer. Amen. Alléluia. Maintenant, pour créer le deuxième vin, Jésus donne des conditions. Donc, pour avoir le vrai amour. Et je vous expliquais que l'amour divin peut commencer ou doit même commencer avant le mariage. Si tu t'es déjà marié, bien sûr, par la grâce de Dieu, Dieu va te donner le vin nouveau. Amen. Si ton cœur est disposé et si tu fais tout ce que le Seigneur va te dire. Amen. Si ton conjoint et toi, vous ne vous aimez plus, aie confiance. Crois seulement. On a chanté, crois seulement. Dieu ouvre un chemin là où il n'y a plus d'espérance. Amen. Et ce matin, Dieu va encore ouvrir un chemin. Dimanche dernier, nous avons dit ceci. Pour créer le vin de gloire, l'amour vrai, l'amour divin, qui est cette énergie, cette force qui propulse un foyer vers son destin, il faut changer de mentalité. Amen. Matthieu chapitre 9, verset 17 dit ceci. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Amen. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, mais pour qu'il le fasse, il faut que tu changes ton raisonnement. L'exercice que nous allons suivre, les classes que nous allons suivre, viennent pour changer notre manière de penser. S'il te plaît, tu as ta conception du mariage, de l'amour, balaye cela. Mets ça de côté. Ta conception de l'amour crée le type d'amour qui va finir par manquer. La conception de Dieu en ce qui concerne l'amour crée un autre type de sentiment entre ton conjoint et toi qui ne finira pas, mais qui va aller en grandissant avec le temps. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen vitaminé. Alors, Jésus fait changer les vases. Donc, pour créer le deuxième vin, Jésus utilise des vases destinés à la purification. Il n'utilise pas les vases destinés au vin. Il utilise d'autres vases. Et le texte que je viens de lire de Matthieu 9, 17 dit, on ne met pas du vin nouveau ou on ne met pas un esprit nouveau dans de vieilles outres, dans de vieux vases, mais on les met dans un nouveau vase. C'est-à-dire quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il ne rattrape pas ce qui s'est gâté. Dieu ne cherche pas à ramener ton couple à être comme au premier jour. Non. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Amen. Pour créer quelque chose de nouveau, il doit tout recommencer. Donc accepte qu'il recommence tout. Alléluia. Alléluia. Le vase représente la manière de penser. C'est la mentalité. C'est la manière dont tu conçois les choses. Maintenant, Jésus a utilisé des vases consacrés à Dieu. C'est-à-dire, Dieu a sa façon à lui de concevoir le mariage. Et c'est la façon originelle. Si nous voulons voir la façon dont Dieu conçoit le mariage, il faut bien sûr aller au premier mariage. Dis avec moi, le premier mariage. C'est là qu'on découvre comment Dieu conçoit le mariage. Alléluia. toutes les autres conceptions sont des conceptions avec un peu de Dieu, mélangées avec nos expériences, la tradition de nos parents. Ta copine va te dire, ne marie pas un tel, parce que les gens de cette ethnie-là, les gens de ce groupe-là, ils sont bizarres. Bon, donc tu as appréhendé, oh, c'était ton mari, mais comme il n'était pas de ta région et qu'on t'avait bombardé par des conseils de tradition, on dit, tu peux marier tout le monde dans ce pays, sauf les personnes qui viennent de ce village. Et on a forgé en toi une mentalité. Donc le jour même où tu as rencontré l'homme de ta vie, celui avec qui tu allais réussir, tu l'as regardé avec les yeux de la tradition. Ton cœur te disait c'est lui. Ta tradition te disait ça peut pas être lui. Alléluia. Alléluia. Alors il faut enlever tes lunettes de tradition, d'expérience, pour prendre celle de Dieu. Et c'est ça le nouveau vase. Pour donc comprendre, nous remontons donc dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi cette notion-là est inclue dans l'élément de rachat du temps. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18. Ce texte est trop puissant, c'est pas croyable. Genèse 2, 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Voici comment le mariage commence. L'homme Adam était là seul. Il se promenait dans le jardin avec les animaux de la forêt. Et Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Je vais créer, il faut que tu aies un être semblable à toi. Notez très bien la notion de semblable. Elle est très déterminante dans le mariage. Alléluia. Et puis, verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Notez très bien au verset 19. Donc verset 18, Dieu dit, l'homme ne doit pas rester seul. Je dois lui faire une aide, c'est-à-dire je vais lui envoyer son épouse. Ça c'est le verset 18 de Genèse 2. Le verset 19, au lieu de créer Ève, on est étonné au verset 19, Dieu envoie plutôt les animaux qui étaient déjà dans la forêt, dans le jardin d'Éden, il les amène vers Adam, pour que Adam leur donne un nom. Je sais que lorsqu'on lit cette histoire, on ne rattache pas la nomination des animaux dans le processus du mariage. On a l'impression que bon, c'est une parenthèse. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. On faisait une autre parenthèse. Et puis Dieu a appelé les animaux, donne-leur des noms. Détrompe-toi, c'est très rattaché au mariage. Amen. L'Éternel Dieu forma donc de la terre tous les animaux des champs et tous les eaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors pour comprendre, maintenant, la deuxième clé pour réussir le mariage. Je rappelle, la première clé, c'est donner à Christ la place du Seigneur dans votre foyer. Maintenant, je fais beaucoup d'explications entre les clés pour que vous puissiez mieux la valeur de la clé. La deuxième clé, c'est racheter vos temps de solitude avec Dieu. Bien, faut rattraper le temps où tu aurais dû être seul à seul avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Il y a un moment, un homme doit avoir un face-à-face avec Dieu. Sans quoi, on ne pourra pas avoir le vin de gloire, l'amour vrai. Alléluia. Toi et puis Jésus, vous devez avoir un face-à-face, un contact, une rencontre directe. Si vous ne faites pas cela, ça va vous rattraper dans votre foyer. Et beaucoup de couples en ce moment ont des difficultés parce qu'ils n'ont jamais passé cette classe. Même des chrétiens se sont mariés sans cette classe. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dimanche dernier en ce qui concerne racheter le temps. Il arrive à tout le monde de manquer de faire certaines choses pendant des étapes de sa jeunesse, de sa vie. Comme j'ai pu lui donner mon exemple, pendant que j'étais élève, je devais apprendre certaines matières que j'ai sous-estimées au profit d'autres matières, les maths, les physiques, les choses que j'aimais. Et plus tard, étant amené à faire des rapports dans le cabinet dans lequel je travaillais, je me suis rendu compte que mes carences en français, grammaire, orthographe, m'ont rattrapé. Donc, si je veux garder mon poste, si je veux aller de l'avant, il me faut racheter le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû donc investir. Et quand on rachète le temps, on paye un peu plus que lorsque c'était la saison d'apprendre. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai apprécié vraiment, j'ai reçu un pasteur qui me dit, un pasteur de cet âge, marié, il a plusieurs enfants. Il me dit, pasteur, je dois vite voir parce que je suis en train de passer le bac. J'ai beaucoup apprécié. Je dis, vraiment, tu es un homme de Dieu. Tu rachètes le temps. Je fais une parenthèse, parce que quelquefois, je fais des digressions comme ça. Dimanche dernier, j'ai beaucoup plus parlé des sœurs. Mais tu sais, mon ami, peut-être ton foyer a des sérieux problèmes financiers. Parce que pendant la saison de l'école, où tu devais apprendre et avoir un diplôme pour avoir un bon travail, tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Tu étais avec tes amis, tu as plaisanté, tu t'es amusé. Aujourd'hui, tu es marié. Tu ne peux pas avoir une promotion dans ton travail parce que tu n'es pas au niveau. Rachète le temps. Le petit travail que tu as, fais tout pour épargner. Mets-toi dans des cours du soir. Apprends. Ça va coûter, racheter, ça coûte deux fois plus. Parce que non seulement avec ton petit salaire, tu dois entretenir ta maison, tu dois finir ton travail, tu dois aller t'asseoir sur des bancs ou recevoir des documents, tu dois prendre le temps de sourire un peu avec tes enfants et puis trouver peut-être le toit entre minuit et une heure du matin, faire tes révisions, mais il faut que tu le fasses. Devais apprendre à racheter le temps. Et je dis ça pour nos soeurs, ton mari aime un type de cuisine. Pendant la saison, on apprenait à faire la cuisine, à entretenir la maison. Tu as manqué cette classe. Alléluia. C'est très important. Amen. Vous savez, les choses qui arrivent dans votre vie vous préparent à la rencontre de votre conjoint. Amen. Amen. Vous savez, moi, mon épouse, Dieu lui a donné dans sa vie une formation qui s'y est, qui allait avec mes profonds besoins que moi-même j'ignorais. En vérité, je me croyais être quelqu'un de l'extérieur. C'est-à-dire, j'aimais sortir, être dehors. C'est ce que je pensais être. Mais dans la vérité, je suis un homme d'intérieur. J'aime rester seul. J'aime rester dans la maison. Mais peut-être les difficultés avec la famille, les parents, les conflits, tu deviens chrétien, c'est une famille musulmane, bon, tu n'es pas à l'aise à la maison. Et j'étais dehors. Je sortais souvent. Mais là, mon être intérieur aime la maison. Pendant ce temps, mon épouse a subi beaucoup d'épreuves. Mais dans ces épreuves où elle n'a pas pu grandir normalement avec ses parents, comme tout le monde, elle va passer une bonne partie de sa vie avec une femme, mais avec des personnes qui vont la forger dans la gestion intérieure d'une maison, dans l'entretien des choses d'une maison. Moi-même, au début de ma conversion, je pensais que j'allais toujours dehors en train d'évangéliser. Mais je ne savais pas que dans mon être profond, la façon dont Dieu m'avait créé, il y avait quelque chose qui aimait rester seul et prendre le temps de méditer, de réfléchir. Donc j'aime l'intérieur. Et elle, involontairement, parce que ce n'est pas ses parents directs qui l'ont élevée. Donc c'est un drame conjugal, mais le drame conjugal l'a envoyé dans une famille qui lui a donné une éducation, mais une éducation d'excellence dans la gestion d'une maison. Donc, mon épouse, elle est dangereuse. Si elle te regarde un verre comme ça, elle peut te dire, si tu as laissé un doigt, elle sent si sa maison, non, au détail près, si la maison est propre. Et moi, je ne savais pas que dans mon être intérieur, Dieu avait fait en sorte que j'aimais cet environnement. Je vous le dis parce que vous ne vous connaissez pas. Le monde et les souffrances peuvent vous déformer. Vous allez comprendre ce que je viens de le dire. Les difficultés vont vous déformer. Alléluia. Le vase nouveau, là, Dieu va former qui tu es en fait. Pas ce que les gens ont fait de toi. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un me suit? Et elle, tu l'as formée. Donc, lorsqu'elle arrive, son réflexe pour la maison, l'aménagement intérieur, tout ça. Et je trouve que, pendant qu'elle le fait, que je suis bien. Je n'ai pas envie de sortir de la maison. Je suis bien. Et mes inspirations, Parce que, j'ai traité l'enseignement sur les différentes formes d'intelligence. Mais ceux qui ont une intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire les gens qui sont créatifs, sont des gens qui sont casaniers. Voilà. Ceux qui ont une relation, qui ont une intelligence interpersonnelle, en fait, tu peux avoir en tout 4 formes d'intelligence majeures. Mais en tout, on en a 12. Chaque homme a 12 formes d'intelligence. Et il y a 4 qui sont dominantes. Donc, il y a ceux qui développent ce qu'on appelle l'empathie, la capacité de comprendre les émotions des autres, sont des gens qui naturellement aiment aller dehors. Ce n'est pas mauvais, rien n'est mauvais. Mais c'est la façon dont Dieu te forme pour atteindre le but de ta vie. Alléluia. Maintenant, diverses choses peuvent te donner une autre nature, mais qui n'est pas la vraie. Amen. Mais si ma femme n'avait pas ce qu'elle avait reçu, je ne serais pas, peut-être je n'aurais pas eu les messages inspirés, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que j'ai le temps, je peux m'enfermer, je peux prier. Or, si tu t'enfermes dans un endroit qui n'est pas agréable, tu vas vouloir sortir encore. Alléluia. Donc, on peut acclamer le Seigneur pour ma chérie. Vraiment. Je m'a béni. Amen, amen. Amen. Ok. Alors, pourquoi je suis en train de dire ces choses-là, en parlant de déformation et autres? Donc, regardons l'histoire du mariage. Vous allez comprendre ce que j'appelle donc racheter le temps, du temps de solitude avec Dieu. Regardez donc l'histoire du mariage. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut comprendre ce que ça signifie. La plupart des gens souhaitent se marier sans donner le vrai sens. Ah, je dois avoir un homme dans ma maison. Je dois avec une femme. C'est pas de ça. Il parle. Fais attention. Fais attention. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je vais lui faire une aide qui soit son semblable. Ça signifie quoi? Que la personne que tu vas marier, vers laquelle tu seras attiré, est semblable à toi. Écoute-moi, tu me dis que tu as marié quelqu'un de bizarre. Tu as marié ton semblable. Ça veut dire que toi-même tu es bizarre. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Le texte est simple, non? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, le type ou bien la dame vers laquelle tu es attiré, qu'aujourd'hui tu rejettes, et tu dis, je ne savais pas que cette femme, mais elle est mauvaise. Ce que tu dis là, la façon dont tu as été attiré vers elle reflète ce que toi-même tu es. Parce que un homme et une femme, selon le principe que Dieu a installé dans les gènes de l'homme, l'homme est attiré par ses semblables. Même si tu as l'impression que la personne ne te ressemble pas, en fait elle te ressemble. Une femme ou bien un homme qui est brisé à l'intérieur, qui est angoissé, qui est malheureux, va entraîner dans sa vie quelqu'un qui va davantage le déprimer. Parce que lui-même aussi, il est déprimé. Mais peut-être qu'il manifeste sa dépression avec beaucoup de cris, de colère et de nervosité. Toi, tu manifestes ta dépression en t'enfermant et en pleurant. Mais c'est un dépressif. Un dépressif, quand on est dépressif, plus orgueil, on est nerveux, coléreux, on crie sur tout le monde, on embête tout le monde, on veut chasser tout le monde. Ça, c'est une dépression. Et pour ne pas souffrir, comme on a un tempérament un peu extraverti, on essaie de s'opposer, on est hyper autoritaire, on dit, j'ai dit ça, c'est ça. C'est un dépressif aussi. Donc, tu as attiré vers toi ton semblable, mais qui se manifeste de manière différente, parce que ça, c'est le tempérament. Mais c'est ton semblable, il est pareil. Ce que j'en ai dit, c'est que une femme a l'homme qu'elle mérite, un homme a la femme qu'il mérite. Amen. Donc, si tu es conscient de ce fait, avant d'essayer de changer l'autre, il faut comprendre que le problème vient de toi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Donc, toi-même, tu es comment? Donc, naturellement, la personne qu'on t'envoie, selon Dieu, est ton semblable. Tu dis, pasteur, nous sommes différents. Vous n'êtes pas différents. Vous regardez quelquefois vos amis, vous dites, mais pourquoi il est parti marier un gars comme ça? Il ne la respecte même pas. Il est toujours dehors. Ma chérie, il faut le laisser. Le problème, ce n'est pas le mari de ta copine. C'est ta copine elle-même. Tu dis, il ne le respecte même, il ne te respecte pas ma chérie. Il fait tout ce qu'il veut. Il avait toutes les filles du quartier. Le fond, c'est que ta copine elle-même ne se respectait pas. Elle-même, elle avait une mauvaise image d'elle-même. Et comme elle ne se respectait pas, elle a pris quelqu'un pareil. et il la méprise, il la sous-estime, il lui fait n'importe quoi parce qu'elle-même, ta copine, même si apparemment elle est directrice de société, même si elle se promène dans des belles voitures, intérieurement elle est brisée, elle est détruite, elle se rejette, elle ne s'aime pas. Donc elle va attirer quelqu'un qui ne l'aime pas davantage, quelqu'un qui l'amène encore davantage à la dépression. Parce qu'on attire, selon Genèse 2.18, l'être semblable. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Donc, si je veux bien me marier, parce que si je veux bien me marier, c'est que je dois changer. Ce n'est pas l'autre. C'est moi. C'est moi le problème. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de personnes refusent de voir qui ils sont. Refuse de savoir. Bon, maintenant, le qui tu es maintenant, ce n'est pas ce que tu aurais dû être. Tu as été déformé. Tes parents t'ont peut-être abandonné très tôt. Ton papa te frappait. Ta maman est vite partie. Mais en tout cas, les douleurs et les souffrances de la vie t'ont donné une personnalité qui n'est pas celle que tu aurais dû être. Parce que Dieu ne crée pas quelqu'un de dépressif. Dieu ne crée pas déprimé. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé dans ton histoire. Et cette chose-là a fini par te donner une forme. Et cette forme-là a fini par attirer quelqu'un qui est semblable à la forme déformée que tu avais. Dieu dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul, je vais lui faire une aide semblable. Amen. Et vous remarquez, juste après cela, comme je l'ai dit, Dieu va amener Adam à donner des noms aux animaux. Mes amis, donner des noms, ce n'est pas simplement une affaire de... Toi, tu es singe, tu es lion. Dieu voulait voir la capacité d'Adam à choisir. Écoutez-moi. Il y en a qui m'ont dit, non, Dieu va me donner mon mari. Ton mari, et je l'expliquerai dans d'autres messages, est une combinaison de tes choix, de ce en quoi tu crois, de tes pensées profondes. Je lirai ce passage la prochaine fois. Dans l'Ézéchiel, il y a des prêtres, des sacrificateurs qui sont venus voir le prophète. Et puis ils disent, mais Dieu dit quoi? Prophétise-nous de la part du Seigneur. Ils demandent ça au prophète. Je crois que c'était Jérémie ou Ézéchiel, je ne sais plus. Et puis le prophète répond, le prophète prie, le Seigneur dit, je vais leur répondre. Il dit, ces hommes que tu vois là sont des idolâtres. Ils ont leurs idoles dans leur cœur. Et puis il dit ceci, je leur répondrai selon leur idole. Dans le texte, lui, second Samuel, l'Église, on dit, je vais leur répondre malgré leurs idoles. En vérité, c'est selon. Le texte dit, dans une autre version, c'est marqué, je vais leur répondre selon leurs idoles. Ce que tu crois, ce que tu adores, Dieu te répond en fonction. Ou la réponse de Dieu sera déformée par la façon dont tu raisonnes. Dieu te donne la réponse juste, mais ton raisonnement à toi va déformer la voix de Dieu pour toi. Donc, il ne s'agit pas dans une prière de dire, montre-moi l'homme de ma vie, montre-moi l'homme de ma vie. Si Dieu n'a pas redressé ta manière de voir, quand il va te montrer tel frère, ton regard va le détourner. Quand la mentalité, c'est pourquoi je parle de changer de vase, quand votre mentalité reste pareille, vous êtes vraiment comme des enfants qui portent les lunettes en couleur. Vous avez les lunettes des enfants là? Les lunettes là sont vertes. Quand un enfant porte des lunettes vertes, il voit le monde en vert. Donc, il ne sait pas distinguer les couleurs. Il voit le monde en vert. Ceux qui ont les lunettes rouges voient le monde en rouge. Dieu doit, et c'est ça la mentalité. La mentalité vous donne une vue. Dieu doit la transformer. Sans quoi, la réponse de Dieu sera forcément affectée par votre manière de concevoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. C'est ce qui fait que Dieu ne donne pas directement Ève à Adam. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 18. Verset 19. Le verset qui suit, on s'attendait à ce qu'il fasse coucher Adam et puis il enlève la corde, il dit voilà ta femme. Il dit voici les animaux, donne-leur des noms. Qu'est-ce que Dieu est en train de travailler? Il dit, il voulait que Adam apprenne à discerner, identifier les gens. Ça c'est une étape de votre vie qui est très importante dans le choix du mariage, dans le choix. Je reviendrai là-dessus. Amen, je reviendrai. Et ceux qui ont pris les CD, je les traiterai longuement. La nomination. J'appelle ça l'étape où on donne des noms. Ça c'est avant de marier, avant que tu rencontres l'homme de ta vie. Il y a beaucoup de gens qui vont venir. Il y en a qui vont te rencontrer. Mais ce n'est pas encore ton conjoint. Tellement vous n'êtes pas compatibles que pour toi, ce sont des animaux. Pour eux, toi-même, tu es... Ce n'est pas une injure. Les animaux, c'est pas une injure. Regardez, on veut marier Adam. Et puis on lui donne des noms à des animaux. Et quand nous lisons la suite, juste après qu'Adam ait donné les noms, le verset dit, Adam a donné les noms et il les dit juste après, et il n'a trouvé aucun qui soit son semblable. Ça signifie quoi? Qu'il est en train de chercher sa femme. Donc, le texte de Genèse 2, verset 20, alléluia, alléluia, Adam commence à donner des noms. Il commence à donner des noms. Toi, oiseau, oiseau, oiseau. Toi, cheval. Il donne des noms aux animaux. Et quand il finit de nommer, le verset 20 dit, il n'a trouvé aucun qui soit son semblable. Le verset 18 a dit, je vais chercher un semblable à toi pour te marier. Verset 19, donne les animaux. Donc, donne les noms aux animaux. Et à la fin de la nomination, il dit, il n'y a aucun qui soit semblable à moi. Autrement dit, Adam est en train de chercher sa femme. Ce n'est pas maintenant dans la forêt que Dieu était en train de chercher forcément à identifier les animaux. Il voulait demander à Adam, est-ce que tu te connais toi-même? Tu as grandi avec les animaux, c'est vrai. Parce que quand tu es né, d'abord les animaux ont été créés le sixième jour. Ils ont été créés avant l'homme. Et Adam est né avec les animaux. Il a grandi avec eux. Mais il devait être capable de comprendre que lui, il est différent. Il est particulier. Mes amis, des gens avec qui vous grandissez, quand Adam est né, quand Dieu a créé Adam, Ève n'était pas là. Le sixième jour de la création, selon Genèse 1, les animaux ont été faits. Donc Adam apparaît. Quand il naît, qui il découvre? Les animaux. Il marche avec qui? Les animaux. Avant de lui donner sa femme, Dieu veut qu'il soit capable de discerner, de comprendre que lui-même Adam, il n'est pas un animal. Alléluia. En fait, ton mariage aura des difficultés si tu ne sais pas qui tu es. Tu peux être déformé par tes fréquentations et croire que, comme je donnais mon témoignage tout à l'heure, croire que tu es quelqu'un d'extraverti qui aime aller dehors, or tu es quelqu'un qui aime l'intérieur. Croire que tu es quelqu'un qui aime crier, or en réalité, tu es quelqu'un de très calme. Tu crois que tu es quelqu'un qui peut-être aime le boulot plus que tout. Mais en fait, la façon dont tu travailles, il faut travailler, est une manière de couvrir tes craintes et ta peur de la misère. Tu fuis quelque chose. Et à cause de ton travail, tu es tellement avec ton travail que tu es en train d'abandonner tes enfants. Mais la manière dont tu travailles même, l'énergie que tu déploies, Dieu veut qu'on travaille. Mais il y a des personnes en fait qui aiment leur travail plus que leur épouse. Et ça crée des problèmes à leur couple. La femme elle a dit, je ne comprends pas. Tu es toujours dehors. Et non, on doit sortir le dossier. En vérité, ce genre de personnes, écoutez, non, je vous dis la vérité. En vérité, ce genre de personnes, inconsciemment, il y a une blessure qui s'est produite dans leur vie. Soit peut-être en marchant avec les animaux, leurs copains. Ils ont été tellement froissés que leurs parents n'avaient pas d'argent, que eux, ils ont décidé, dans la ville, tout ce que je vais faire pour m'enrichir, je le ferai. Et ils ont été déformés. En réalité, c'était des gens très calmes, qui allaient travailler correctement, auraient mis leur conjoint, leur épouse à sa place, l'auraient entretenu correctement. Mais, en marchant avec les animaux, ils voient les jeunes qui sont dans les grosses voitures, ils roulent comme ça. Lui aussi, n'est la convoitise. Il dit, non, moi, je veux être comme ça. Je veux être comme ça. Donc, il commence à s'identifier aux autres et il se déforme. Il se déforme et plus tard, à la période du mariage, il va chercher quelqu'un de semblable. Donc, il va chercher aussi une femme déformée. Les deux déformés vont se mettre ensemble. Autrement dit, s'il marie quelqu'un de déformé comme lui, est-ce que vous suivez l'image? C'est comme s'il avait marié aussi un animal. Vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Bien sûr, au début, ils seront contents. Jusqu'à ce que la femme se rende compte que c'est un lion qu'elle a marié. Ou bien le monsieur se rend compte que c'est un lion. Il dit, chérie, quoi elle sort les griffes? Ça, c'est le lion. J'ai dit, c'est le lion. Jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en nommant les animaux dans la forêt, tu as marié un singe. Le singe, il va de branche en branche. C'est-à-dire un mari qui n'est jamais là. Elle dit, mais chérie, reste un peu à la maison. C'est, tu as marié un singe de branche. J'arrive. Mission, je suis en mission.
donnant les noms aux animaux, il fallait que tu te rendes compte que ce monsieur-là, tu te rends compte que toi, tu es une femme d'intérieur. Et tu devais être capable de dire, ah, ce monsieur, on n'est pas pareil. Peut-être qu'il est beau, mais on ne vit pas toujours avec la beauté du visage. Pour que le mariage soit solide, il y a d'autres paramètres que la beauté physique. Peut-être qu'il a l'argent, mais on ne marie pas l'argent. Fais attention. Alléluia. Et tu vas te tromper en nommant. Donc Adam était en train de chercher sa femme. Et il donnait des noms. Il y a beaucoup d'animaux dans la forêt. Quelquefois, vous dites, mais Dieu, tu plais, je ne comprends pas. Tu donnes des noms. Tu arrives à distinguer que non, toi quand même, tu es un être supérieur. On t'amène, je sais pas, un agouti. Tu dis, non, toi tu es agouti, moi je ne suis pas agouti. Donc Adam donnait des noms. Quand tu es blessé, que par exemple, tu n'as pas eu de père, une femme qui n'a pas eu de père cherche l'autorité. Donc, comme elle n'a pas eu de papa, inconsciemment, son être intérieur aspire à des gens de caractère. Donc, elle croit que elle doit chercher le caractère. Donc, quand la dame se met à donner des noms à ses amis qu'elle fréquente pour voir s'ils sont mariables ou ils ne sont pas mariables. Parce que les gens que tu fréquentes, c'est ça les animaux de la forêt, en fait. Donc, vous commencez à cheminer un peu, ils t'amènent deux ou trois fois au restaurant. Ils disent, non, lui là, je ne peux pas marcher avec lui. Et tu l'abandonnes, tu le laisses, parce que tu sens que tu vas voir. Mais toi-même, tu as été déformé. Papa n'étant pas là, tu cherches quelqu'un de caractère. Alors quand tu arrives au lion, donc ça c'est le mec lion. Vous marchez, tu sens que quand tu sors avec lui, tu sens que je marche avec un garçon. L'assurance, le roi, il a l'argent, il part. Ah, c'est le lion. Ah, c'est les hommes caractère lion. Le lion, c'est le roi de la forêt. Oh, ouais. Tu dis, ça, c'est un homme. Tout le monde à droite. Tu vois, tout le monde à droite. C'est le mec que je cherchais. On dit, pourquoi tu veux le marier? Non, je l'aime. Mais je l'aime. Mais en fait, la réalité, c'est que tu ne l'aimes pas comme un mari. Tu l'aimes comme tu aurais souhaité avoir un père. Mais tu en es inconsciente. C'est un lion que tu es en train de prendre. Et après, le gars vient. Alors ma petite, on se marie? Oui, je pense à toi. Et vous voyez des gens comme ça, même quand ils se séparent, vous venez dire à votre Camille, mais tu vois pas que le monsieur là te fatigue, il te maltraite, faut le laisser, il te va pas. Je l'ai. Je peux pas m'en défaire. Parce que tu ne peux pas te défaire de ce que tu as toujours cherché. Le papa, l'autorité dans la famille. Tu n'es pas amoureuse. Le sentiment qui t'amène, c'est le premier vin. C'est une logique. C'est venu parce que papa n'était pas là. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et puis tu vas marier les lions. Quelqu'un t'a appelé dans la maison. Chérie, j'ai dit quoi? Je veux que la table soit rangée comme ça. Pourquoi? Et pardon, je t'ai placé. Allez, pas lion. Ah, pourquoi tu me frappes? Mais tellement tu cherches papa. Quand tu vas, on voit les bleus là. Hein, arrêt de travail, pardonnez, j'arrive pas. Tu es toujours blessé. Toujours. On va te tuer. Tu as marié un lion. Le monsieur aussi, il cherchait une maman autoritaire. Il a trouvé une de ses tantes là. On dit vipère. Ses paroles. Ah non. Et elle te blesse, elle te lance des flèches. Et quand tu rentres comme ça, on dit mon frère, c'est une vipère. Son regard, d'où tu viens? Et toi, le mari, même tu arrives, tu es glacé. Dans ta maison, tu n'es plus libre. Parce que tu as fait l'erreur. On t'a dit de donner des noms aux animaux, pas de les marier. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Donc ton foyer a un problème aujourd'hui parce que tu as marié la mauvaise personne. Maintenant tu me dis, ah, parce que je dois divorcer pour chercher la bonne personne. Non. Ce n'est pas nécessaire. C'est une image. C'est un homme qui est en face à toi. C'est juste que sa mentalité même est corrompue lui aussi. C'est une femme qui est là. C'est juste que vous deux, vous avez un problème. Une fois que vous êtes engagé dans le lien du mariage, Je peux changer le vase. Il peut changer le vase. Tout homme peut changer. Dieu est le Dieu des miracles. Il peut le faire. Il n'y a pas un statut. On dit tu es comme ça. En tout cas, tu vas mourir toute ta vie comme ça. On change. Un homme qui se comporte comme ton mari ou bien comme cette femme-là est déjà détruit à l'intérieur. C'est ça son problème. Et c'est ce qu'il faut chercher à régler. Alléluia. Si je suis marié. Maintenant, si je ne suis pas marié, je peux éviter la souffrance d'avoir à régler ça dans mon foyer. Je n'ai juste qu'à me préparer avant le mariage, à savoir qui moi-même je suis, à retrouver mon identité, à me guérir de mes blessures intérieures. Alléluia. Et puis à être prêt. Et naturellement, quand mon être intérieur est formé, je suis prêt. Je n'ai même pas à faire d'effort. J'attire inconsciemment l'homme ou la femme de ma vie. Alléluia. Donc, si je suis marié, je vais racheter du temps. Je n'ai pas à me séparer, ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Parce que quand tu vas te changer selon le principe que je donne, l'autre va systématiquement changer. Parce que cette fois-ci, maintenant, tu as une force. C'est que vous êtes une seule chair. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Lorsque vous devenez une seule chair, tout changement profond en toi affecte ton conjoint. Il n'y a rien à faire. Il est lié, quoi. Alléluia. Donc, il ne faut pas te focaliser sur son changement. Prends le temps d'écouter la parole et puis corrige ce que tu dois corriger. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Mon thème, c'était racheter le temps de solitude avec Dieu. Amen. Dimanche prochain, je vais développer. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Comment Dieu a résolu le problème de solitude de Adam? Remarquez bien l'histoire. Dieu n'a pas créé Ève et Adam en même temps. Il crée Adam. Dieu lui-même reste un temps seul à seul avec Adam. Lorsque Ève est créée, la Bible dit que Dieu a endormi l'homme. Pourquoi Dieu l'a endormi? Ne pouvait-il pas faire une opération à yeux ouverts? En fait, Dieu voulait rester un temps seul avec Ève. Pendant qu'Adam dormait, quelque chose entre Dieu et Ève s'est produit. Adam dormait dans un profond sommeil. Il s'est réveillé, il voit. Ève, avant de rencontrer son homme, Adam avait eu du temps avec Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que qui que tu sois, tu as été créé à l'image de Dieu. Donc quand on dit l'homme va marier un semblable à lui, si toi tu es semblable à Dieu, la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Si toi tu es semblable à Dieu, le seul miroir que tu as pour retrouver ta particularité, c'est Dieu, ce n'est pas les animaux. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est lorsque tu auras regardé la source d'où tu as été tiré que toi-même tu vas finir par te retrouver. En fait, vous savez, Dieu est infiniment grand et chacun d'entre nous représente une spécificité divine. Ton caractère, le vrai toi, n'est pas celui que tes copains, la vie, la mode a façonné. Parce qu'on est là, on dit aujourd'hui c'est on travaille, toi aussi tu es devenu travailleur, tu as fait le mal. Toutes ces choses-là, ça nous déforme. C'est parce qu'on fréquente d'abord un certain environnement. Il faut fréquenter profondément celui de qui nous sommes convaincus ressembler. Nous avons été créés. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc Adam est resté seul. Avant de donner Ève, Ève est restée seule avec Dieu. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit ceci. Nous tous qui le visage découvert. Ah, je vais parler de ça. Nous tous, parce qu'il faut que le visage soit découvert. Nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, sont transformés en la même image, de gloire en gloire. Notez qu'on cherche le semblable. Ce que je dis aussi est faisable dans le mariage. Tu t'es marié sans savoir qui il était. Tu dois commencer, si tu veux avoir le vin nouveau, à avoir des temps seul à seul avec Dieu. La véritable identité se trouve dans l'adoration. Je vais expliquer. Tu es quelqu'un de spécial. Tu as une particularité. Tu as une particularité. Et ton conjoint est quelqu'un de complémentaire avec qui vous atteignez votre destin. Ok? Mais ta particularité ne se retrouve que dans ce temps-là avec Dieu, pas avec ton mari. Vous savez, quand on est en couple, là, il y a des prières ensemble. Vous priez ensemble. C'est très bon. Mais
La prière qui t'aide à te retrouver, c'est pas forcément la prière, c'est la prière personnelle avec Dieu. C'est-à-dire, ton mari m'a couché, toi-même tu te lèves là, et puis tu l'adores. Je vais l'expliquer dimanche prochain. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Régulièrement. Je vais l'expliquer mieux dimanche prochain, et tu vas voir ce qui va se produire. Tu vas voir comment ta maison va, l'atmosphère va commencer à changer. Toi-même, tu vas commencer à changer. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi va commencer à disparaître. La nervosité, l'hésitation. Normalement, tu es quelqu'un qui aurait dû être ferme, quelqu'un de précis. Mais maintenant, tu es hésitant, tu as peur de tout. Tu hésites constamment. Ça, c'est les animaux qui t'ont. C'est la vie et les animaux qui t'ont donné ce caractère-là. Donc, tu retournes auprès de Dieu. Et quand tu retournes, il te donne qui tu es. Tu vas voir que tu es quelqu'un de très doux, pas de coléreux. En vérité, tu es quelqu'un de très douce. Mais tu ne le sais pas. Quand on te demande, tu dis aux gens, prenez-moi comme ça. On ne te prend pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. On refuse que tu sois comme ça. Dieu dit, tu n'es pas comme ça. Accepte-moi ainsi. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. En vérité, ce que tu dis que tu n'aimes pas, tu aimes. Mais tu détestes ça. Parce qu'un homme qui t'a trahi, il aimait la musique là. Donc le jour où tu as jeté l'homme, tu as jeté cette personne. Mais en réalité, c'est le truc même que tu aimes. Mais un animal t'a déformé. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Nous allons arrêter là. Amen. Et nous allons prier le Seigneur. Notre objectif aujourd'hui, c'est être ce que Dieu veut que nous soyons. Tu veux sauver ton foyer? Tu veux que ton foyer, qui est déjà béni, entre dans une nouvelle dimension de grâce et de gloire? C'est très bon. Prends le second vin. Qu'est-ce que je dois faire pour prendre le second vin? Je dois construire mon mariage avec la mentalité de Dieu. Et c'est quoi la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est que ton conjoint est semblable à toi. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Redevenir moi-même. Celui que Dieu a fait, a créé, avant que l'humanité, l'éducation, les relations, l'école, le système le déforme. Seigneur, aide-nous à te connaître. Alors parle au Seigneur selon ce que tu as reçu de ce message. Le Seigneur t'a dit une chose particulière te concernant. Ne te condamne pas, ne te juge pas méchamment. Mais il y a des choses que tu ignorais. Tu as fait des erreurs par ignorance. Mais même malgré ces ignorances-là, Dieu est capable de faire des exploits. Alors, bénis le Seigneur d'avoir éclairé tes yeux, d'avoir éclairé ta connaissance. Et demande-lui, Seigneur, aide-moi. Fixe les yeux vers ton Dieu, celui qui t'a créé. Crois en lui dans ton cœur fortement. Et crois qu'il est capable de te donner un futur meilleur. Il est capable, ton Seigneur. Il est capable, ton Dieu. Il sait que tu ignorais ce que tu faisais. Il le sait. Il ne te juge pas. Il ne te rejette pas. Il ne te condamne pas. Parce qu'il t'aime réellement, ton Dieu. Mais il a voulu que tu sois là ce matin pour faire de toi quelque chose, pour te transformer, pour te donner, pour t'offrir ce nouveau départ, cette nouvelle étape. Pour le temps qui te reste encore, il veut te propulser vers ton destin. Tu es quelqu'un de particulier, tu es quelqu'un de spécial. Il faut que tu retrouves qui tu es, quelle est ta particularité, quelle est ta singularité. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans nos vies. Merci Père. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur.
Il ne songe pas car il est Dieu. Il cautionne sa parole. Trahis pas car il est fidèle. Il te répondra car il garde sa parole. Il ne change pas car il est Dieu. Cautionne faillit pas car il est fidèle. Il te répondra car il garde sa parole. Alors je te dis seulement,
celui qui croit. Seigneur, donne-moi de toujours croire en toi. À celui qui croit.
Nous voulons le dire encore ensemble. Crois seulement.
Crois seulement. Je te dis quoi seulement, je te dis quoi seulement, car tout est possible à celui qui croit.
Ne jamais abandonner, nous ne devons pas baisser les bras, mais crois, continue de croire, crois seulement. Foi, ne baisse pas les bras.
À celui qui croit, je te dis quoi seulement.
Ton Dieu te dit de croire,
quoi seulement.
Quelles que soient les pressions,
seulement.
Parce que tout est possible,
car tout est possible. À celui qui croit.
Je te dis quoi, quoi seulement. Je te dis quoi seulement. Car la foi en ton Dieu,
car tout est possible à celui qui.
Je te dis quoi
seulement.
Seigneur, donne-moi de quoi. De quoi
seulement, je te dis quoi seulement, car tout est possible à celui qui croit.
Même quand tout semble t'abandonner,
crois seulement.
Même quand tu sembles perdre toute chose,
crois
seulement. Dans les moments les plus difficiles,
crois seulement.
Cette montagne va se déplacer,
car tout est possible à celui qui.
Si la société t'a abandonné, crois seulement. Même si ta famille t'a abandonné,
crois.
Si tu as l'impression de tout perdre, crois,
crois seulement. Car tout est possible à celui qui.
Cette situation peut changer,
crois.
Avec Jésus, rien n'est mort, mais il faut croire,
croire.
revenir croire.
Seulement
Jésus donne la vie à ceux qui en ont. Là où il n'y a plus d'espoir, Seigneur, je veux croire. Seigneur, je veux croire.
À celui qui croit,
je te dis crois. À toi la louange, la gloire, la louange, l'exaltation. Seigneur, je veux croire en toi, je veux croire en toi. Je veux croire en toi pour ma destinée. Je veux croire en toi pour ma vie. Je veux croire et je sais, Seigneur Dieu, qu'avec toi, il y a cet espoir. Nous voulons nous tenir debout et acclamer très fort le roi de gloire. Alléluia. Alléluia.
Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Mohamed Sanogo, tels que la mentalité des vainqueurs, retrouver son identité, sont à votre entière disposition. Contactez-nous au 22 41 29 80 ou au 02 61 30 63 ou écrivez-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous vous invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com. Merci et à très bientôt.